Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 5h à Paris, 7h à Mayotte. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Juliette Petrashevski. Bonjour Juliette.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de ce journal, comment aider Mayotte alors que les habitants attendent encore de l'aide plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido. À Paris, la communauté mahoraise cherche à envoyer de l'aide dans l'archipel français. Reportage à suivre en début de journal. Dans l'actualité également, nouvelle manifestation ce dimanche en Serbie. Lycéens, étudiants, agriculteurs seront rassemblés à Belgrade aujourd'hui. En cause, un effondrement dans une gare qui a tué 15 personnes, mais aucun responsable n'a été traduit en justice. Aux États-Unis, après avoir évité le shutdown, on s'intéressera au texte voté au Congrès, signé par Joe Biden. Une aide de 100 milliards de dollars est prévue notamment pour les régions touchées par les ouragans du début de l'automne. Et puis la Colombie, condamnée par la Cour internationale américaine des droits de l'homme pour avoir renié les droits d'un peuple autochtone. À Mayotte, l'eau courante est de retour dans une partie de l'archipel, mais l'aide reste longue à arriver. Il y a une semaine, le cyclone Chido dévastait tout sur son passage, laissant derrière lui les Mahorais dans la détresse. De l'eau a été distribuée à Mamoudzou, mais l'aide d'urgence se fait toujours attendre dans plusieurs points de l'archipel. Alors il y a cette question pour les Mahorais de l'Hexagone. Comment faire parvenir l'aide au plus vite? À qui donner et quels dons faire en priorité? Beaucoup veulent à tout prix aider Mayotte pour tenter d'y voir plus clair. Une réunion était organisée hier dans les locaux de la délégation de Mayotte à Paris. C'est un reportage de Lou et Cal.
C'est par une minute de silence pour les victimes du cyclone Chido que la réunion a commencé. Merci à vous. La salle est pleine, à tel point que beaucoup doivent rester debout. Parmi tout ce monde, il y a Karim, un jeune ingénieur en mathématiques appliquées. S'il est venu aujourd'hui, c'est pour avoir des informations.
Parce que comme j'étais un peu dans le flou, c'était aussi un moyen d'avoir des infos et savoir aussi ce qui est fait là-bas et ce qui va être fait aussi à moyen terme.
À qui donner? Doit-on fournir à boire ou verser de l'argent? La Fondation de France et la Croix-Rouge insistent. Les associations ont besoin de dons financiers. Les ONG rassurent les Mahorais. Elles sont présentes sur place.
Là, il y a des nouvelles plutôt positives, que les autorités font ce qu'ils peuvent déjà pour essayer d'acheminer l'aide plus près.
Deux Mahoraises discutent à côté de la salle. Elles n'attendent qu'une seule chose.
On a envie de rentrer chez nous pour aider nos familles et voir sur place déjà ce qu'on peut réparer le plus rapidement possible et préparer l'avenir, bien évidemment.
La députée de la première circonscription de Mayotte, Estelle Youssoufa, a fait la demande au gouvernement. Attribuer au plus vite des dérogations pour permettre aux Mahorais de tout l'Hexagone de rentrer près de leur famille.
Reportage signé Lou et Cal. Et alors que le président français rentre à Paris ce matin après 3 jours de déplacement, notamment à Mayotte, mais aussi à Djibouti ou encore en Éthiopie, toujours pas de fumée blanche du côté de Matignon pour annoncer le futur gouvernement de François Bayrou. Mais ça ne saurait tarder. Le patron du Modem continue à affiner son équipe. La liste complète du gouvernement devrait être présentée en une seule fois et avant Noël, précise le président des députés Modem, Marc Fesneau, ce dimanche dans la Tribune du Dimanche. Selon lui, la structuration des grands pôles ministériels est fixée. À noter cependant que le nouveau gouvernement ne sera probablement pas annoncé ce lundi puisque le chef de l'État a annoncé une journée de deuil nationale pour les Mahorais après la situation catastrophique qu'a laissé derrière lui le cyclone Chido. En Serbie, le président a affirmé hier qu'il ne reculera pas face aux manifestations qui durent depuis plus d'un mois dans le pays. Des manifestations déclenchées par un effondrement dans une gare qui a tué 15 personnes. Derrière ce triste bilan, plus précisément la chute d'un auvent dans la gare de Novi Sad dans le nord de la Serbie, aucun responsable n'a été traduit en justice. Les manifestants serbes demandent l'ouverture d'une enquête. Des dizaines d'universités à travers tout le pays se sont mises en grève, rejointes par les lycéens. Ce dimanche, à Belgrade, les étudiants seront rejoints également par les agriculteurs. Des rassemblements en hommage aux victimes qui sont désormais quotidiennes dans les plus grandes villes du pays. Le pouvoir, avec ses médias sous contrôle, accuse les étudiants d'être payés par l'étranger et envoie, selon différentes sources, des provocateurs pour perturber le mouvement. Explication de Milan Nokolic, sociologue à Belgrade.
Ce régime est décrit comme une dictature de manipulation. Il existe en Serbie quelques médias libres, mais ils sont limités et sous constante pression. La grande majorité est sous contrôle et les manipulations du régime y sont omniprésentes, ce qui marche chez les moins éduqués, les personnes âgées et dans la population rurale. En revanche, ces manipulations ne fonctionnent pas chez les jeunes, qui sont plus éduqués et qui voient plus clairement ce qu'il se passe. Les jeunes sont interconnectés, utilisent leurs portables, les réseaux sociaux. Ces manifestations sont menacées tant que le pouvoir réussira à tromper la majorité de la population qui vote pour ce pouvoir, qui les trompe avec ses promesses. Mais quand ces manipulations cessent de fonctionner, le pouvoir recourt à des menaces qui dégénèrent en violence. Les étudiants font en sorte de décider de leurs actions dans des assemblées générales. Il n'y a pas de leader qui pourrait être exposé et devenir la cible du régime, être agressé ou emprisonné, comme c'était notre cas en mai 1968.
Des propos recueillis par Yelena Tomic. En Allemagne, après l'attaque du marché de Noël de Magdebourg à la voiture Bélier de vendredi, le dernier bilan fait état de 5 morts et de 200 blessés. Un bilan qui reste provisoire. Parmi les blessés, une quarantaine de personnes le sont très grièvement selon les autorités. Hier soir à 19h03, heure de l'attaque de vendredi, pour rendre hommage aux victimes, les cloches de toutes les églises de Magdebourg ont sonné avant un office religieux où le chancelier allemand Olaf Scholz était notamment présent. Le gouvernement Scholz est par ailleurs sous pression après cette attaque. Le suspect d'origine saoudienne a été interpellé, placé en garde à vue. Son profil est encore flou. Selon les autorités, il en voulait probablement à la politique d'asile allemande et serait islamophobe. RFI, il est 23h06 à Washington. Les États-Unis sont passés tout près de la paralysie budgétaire. Votée par le Congrès, signée par le président américain Joe Biden, le texte promulgué par le chef de l'État garantit finalement le bon fonctionnement de l'État fédéral et les paiements des fonctionnaires. Ils ne seront donc pas privés de salaire pour les fêtes de fin d'année. Le texte prévoit aussi une aide de 100 milliards de dollars pour les régions touchées par les ouragans Helene et Milton au début de l'automne. On en parle avec Vincent Souriau.
Cette enveloppe, c'est l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence qui va la distribuer. À travers cet organisme, le gouvernement américain rembourse les États fédérés et les collectivités locales qui ont cassé leur tirelire après le passage dévastateur des deux ouragans. Il a fallu débarrasser les débris, mobiliser du matériel lourd, payer des heures supplémentaires aux pompiers et aux policiers. Toutes ces factures vont être réglées. Le texte inclut aussi des aides directes pour les populations touchées, jusqu'à 42 000 dollars par foyer pour la reconstruction des bâtiments détruits. Gros coup de pouce pour les agriculteurs, 21 milliards, répartis entre la Floride, la Virginie, la Géorgie ou la Caroline du Nord, afin de soulager les exploitants qui ont tout perdu. Le texte prévoit aussi de quoi refaire des ponts et des routes, renfloue la NASA, l'agence spatiale américaine, pour qu'elle répare ses équipements endommagés et libère des fonds pour l'achat d'un nouvel avion spécialisé dans la détection des phénomènes cycloniques.
Les précisions de Vincent Souriau dans l'actualité. Également cette condamnation. La Colombie est condamnée par la Cour internationale américaine des droits de l'homme pour avoir renié les droits d'un peuple autochtone. Son nom, les Yuhua. Sur leur terre, Bogota avait autorisé différents projets pétroliers, gaziers et miniers à leur détriment et sans les consulter. Les précisions de Simon Rosé.
Leur culture et leur environnement, leurs forêts ont été endommagées. Ils ont également été victimes de violences et d'intimidations. Les indigènes Yuhua obtiennent cependant réparation devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. L'institution qui siège au Costa Rica reconnaît la culpabilité de la Colombie. En cause, 7 projets d'exploitation minière, pétrolière et gazière au sein de la réserve naturelle où vivent les Yuhua au nord du pays. Cela fait 20 ans qu'ils ont été lancés sans consultation et au mépris des titres de propriété des autochtones. En conséquence, la Colombie va devoir régulariser la situation. Outre une indemnisation, Bogota va devoir attribuer des titres de propriété aux Yuhua dans les régions où ils vivent. Les dégâts environnementaux devront également être atténués. Et enfin, la gouvernance de ces exploitations va devoir évoluer. Les Yuhua auront en effet désormais voix au chapitre dans les processus de décision qui concernent les actions menées sur leur territoire.
Simon Rosé. Et si, comme les Britanniques, vous appréciez les fléchettes, ce sujet va sûrement vous intéresser. En ce moment, à Londres, se déroulent les championnats du monde 2025. Ce sport très populaire au Royaume-Uni attire de plus en plus l'intérêt des diffuseurs internationaux. Jusqu'à vendredi après-midi, un athlète sud-africain était dans la compétition, Cameron Carolissen. En quelques jours à peine, l'unique représentant du continent africain est devenu l'une des mascottes du public britannique. Et même s'il a subi une courte défaite contre un adversaire classé 167 places au-dessus de lui au classement mondial, Carolissen espère que sa participation pourra stimuler le développement de la discipline sur le continent. Les précisions depuis Londres de Sarah Menaï.
C'est bien sur l'air de Waka Waka, l'hymne de la Coupe du Monde de foot 2010, que le public d'Alexandra Palace, ici au nord de Londres, a accueilli Cameron Carolissen. Originaire du Cap, le Sud-Africain surnommé le Javelot s'est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour ces championnats du monde, sortant en septembre dernier en tête d'un groupe de 105 joueurs africains réunis à Nairobi. Il attribue aujourd'hui une grande partie de la progression de ce sport sur le continent à son compatriote, l'ancien joueur sud-africain Devon Peterson, qui a fondé l'African Dart Group. Alors à 28 ans, Carolissen espère à son tour inspirer la nouvelle génération.
J'espère que ça ouvrira les yeux aux garçons de mon pays. J'espère qu'ils auront une vue d'ensemble et qu'ils comprendront l'objectif du développement des fléchettes en Afrique. Je suis heureux de pouvoir être ici, de représenter non seulement l'Afrique du Sud, mais l'Afrique dans son ensemble. Maintenant, je peux rentrer chez moi en souriant. Jouer ici est le rêve de tout joueur de fléchettes. Je suis content de ma performance. Je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi pour retrouver ma famille à Noël et profiter du soleil du Cap.
L'objectif désormais pour Cameron Carolissen, revenir ici à Londres dans 4 ans pour les prochains championnats du monde. Sarah Menei, Londres, RFI.
RFI, il est 5h11 à Paris. L'actualité continue. Restez avec nous.
RFI, toute l'actualité.
Juliette Pietraszewski.
Et nous irons d'abord au Canada. Tous les ans, plus de 400 000 personnes sont accueillies dans le pays. Et selon une étude, une bonne partie repartirait au bout de quelques années seulement, notamment les francophones. Reportage à suivre. À suivre également, votre chronique défense s'intéressera au char du futur, le MGCS. On en parle dans un instant. Votre rendez-vous de la biodiversité, c'est dans ta nature, vous parlera également des plantes migratoires. Et puis vivre ailleurs, Noël en Norvège, comment ça se passe? Rendez-vous dans quelques minutes avec Cécile Moroni, autrice, humoriste, expatriée à Oslo depuis 14 ans. Et on va poser nos valises au Canada pour les prochaines minutes. Le pays accueille plus de 400 000 personnes chaque année, dont la majorité fait l'objet d'une longue sélection. Et selon une étude de Conference Board, organisme qui s'intéresse aux politiques publiques, une bonne partie de ces immigrants repartent au bout de quelques années. Une réalité particulièrement forte chez les francophones, jusqu'à un tiers quitterait le pays. Pascal Guéricola en a rencontré quelques-uns.
Installée dans la ville de Québec depuis 4 ans, Aurélie et son conjoint rentrent en France avant la fin de l'année avec leur bébé tout neuf pour se rapprocher de leur famille. Parmi les raisons du retour, la jeune femme rencontrée dans un café évoque aussi l'augmentation du coût de la vie dans sa patrie d'adoption.
Je note le montant de nos achats d'épicerie depuis qu'on est arrivé pour faire nos comptes et ça a vraiment beaucoup augmenté depuis qu'on est là. Tout coûte très très cher. Le loyer aussi, tous les loyers, à moins de se retrouver en sous-sol ou en demi-sous-sol. C'est vrai que je pense qu'on a quand même l'idée, quand on vient de la France, de « Ok, on aura un meilleur salaire, donc un meilleur niveau de vie ». En l'occurrence, comme le coût de la vie autour est plus élevé, on n'a pas forcément un meilleur niveau de vie. C'est un système très capitaliste ici et on paye tout le temps pour tout. J'ai toujours l'impression de mettre la main à la carte.
Ils sont très gentils, on s'entend très bien, mais ça reste de la surface. Ça ne va pas aller plus loin.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs discutent également de la tendance du Québec et du Canada à se vanter un peu trop du caractère accueillant du pays. Autour d'un thé chez elle, Alexandra parle des difficiles liens d'amitié avec les Québécois. La Française songe à repartir avec sa famille, faute de se sentir intégrée au bout de 8 ans.
On ne nous fait pas sentir qu'on est ici chez nous comme Québécois. On sera toujours des Français. On se sent seul parfois, on se sent pas... On a eu du mal à s'insérer, à intégrer cette culture québécoise. Et faire toujours des efforts, c'est vrai que ça, à la longue, ça fatigue.
Les efforts dont parle la mère de famille concernent aussi se déployer pour se conformer aux exigences des employeurs. Dans son bureau au 5e étage de l'Université Laval, la géographe Adèle Garnier énumère les obstacles professionnels qu'affrontent les immigrants, même après plusieurs années au Canada.
Une des barrières, justement, c'est la reconnaissance des compétences. Mais mettons, vous êtes psychologue, vous êtes avocat, des métiers comme ça, vous êtes ingénieur. Ça demande beaucoup d'efforts au Canada et au Québec, particulièrement, de rester. Vous êtes médecin, les démarches à faire pour être médecin ici, quand vous êtes surtout pas français, c'est très difficile. S'ils n'ont pas le travail qu'ils veulent ou le salaire qu'ils veulent, ils vont peut-être aller chercher mieux ailleurs.
Les statistiques montrent que les personnes davantage qualifiées ont tendance à quitter le Canada. Un signal d'alarme, selon la chercheuse, elle invite les autorités à déployer plus de moyens pour les retenir et leur faire une place ici. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Et la chronique défense du jour s'intéresse à un char du futur. Son nom, le MGCS, pour Système Principal de Combat Terrestre. Un projet structurant pour l'Europe de la défense. Ce char en question est supposé remplacer le Léopard 2 dans l'armée allemande et le Leclerc dans l'armée française vers 2040. Mais problème, il peine à décoller. Le canon de ce char du futur existe déjà. KNDS France a présenté l'Ascalon, mais il fait l'objet de désaccords entre industriels. On en parle avec Franck Alexandre.
Qu'il est difficile de s'entendre lorsqu'on est quatre. Le char du futur porté par Thales, KNDS France, anciennement Nexter, KNDS Allemagne avec Raoul Maffei Wegmann et enfin Rheinmetall, le géant allemand de la défense. Pour garantir un partage équitable des tâches, 8 piliers capacitaires ont été édictés, mais les choix technologiques seront faits après évaluation et des deux côtés du Rhin, on s'écharpe sur le canon. Rheinmetall a fait le choix d'un tube de 130 mm, quand Nexter propose l'Ascalon, deux tubes pour tirer des obus de 120 et 140 mm et l'Ascalon, nous l'avons vu au dernier salon de Rossatori, monté sur un char Leclerc Evolution. François Groigny, directeur de programme char de combat futur chez KNDS France, nous en a fait la présentation.
Quatre caractéristiques essentielles. D'abord, un niveau de puissance délivré à la bouche et à la cible jamais égalé. On a là une capacité à changer de calibre en moins de 30 minutes. Troisième caractéristique, il est extrêmement compact, donc on utilise une architecture dite super shot. On voit ici la munition qui est une munition de 140 qui fait donc 130 mm de haut. Dernière chose, c'est qu'on travaille beaucoup à l'intégrabilité de ce canon en tourelle et donc on pourra loger plus de personnel en châssis.
Côté français, l'on craint surtout que Rheinmetall et Raoul Maffei Wegmann réunis imposent le canon allemand malgré le coup d'avance de Nexter qui, avec l'Ascalon, propose une technologie de rupture.
Ascalon, c'est d'abord une technologie. Ici, elle est déclinée en 140 et en 120, mais c'est une technologie qui pourrait être déclinée dans un autre calibre. Tout le monde connaît bien le canon du César aujourd'hui qui est une référence mondiale. On espère faire de ce canon également la référence mondiale, mais cette fois-ci pas sur le segment de l'artillerie, mais sur le segment du char.
Il y a donc des arbitrages industriels lourds de conséquences, surtout dans un contexte de retour de la guerre de haute intensité. François Groigny.
La guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène la guerre symétrique. Ça veut dire qu'il faut se rééquiper avec toute la gamme. Et puis le segment du char est un segment stratégique puisque c'est autour de ce segment qu'est en train de se réorganiser l'industrie de défense terrestre. On est dans une phase un peu de concentration. Donc c'est vraiment sur ce segment de produits que s'opère la concentration de l'industrie. Et chacun travaille ses domaines d'excellence pour arriver à construire dans la durée le Lego qui va faire matcher les différents industriels.
Et pour que cela puisse matcher, la direction générale de l'armement émet l'hypothèse d'une coexistence de deux chars différents, rappelant que le projet commun est avant tout un cloud de combat et des drones, un ensemble qui pour l'heure reste à l'état d'ébauche.
C'était la chronique défense avec Franck Alexandre.
C'est dans ta nature.
Votre rendez-vous de la biodiversité vous emmène à la rencontre des plantes migratrices. Vous connaissez déjà les oiseaux migrateurs, les poissons migrateurs, mais les plantes aussi voyagent. C'est le sujet d'une exposition qui se tient à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. On en parle avec Florent Guignard.
Vous n'allez plus regarder vos chaussures de la même façon. L'exposition Migration du vivant au Jardin botanique de Bordeaux commence avec l'expérience réalisée par l'artiste Gérard Auré, qui a collecté chez des voyageurs les graines et les spores accrochés à leurs semelles. Il les a plantées et ça a poussé. Mélissa Porte est en charge de cette exposition.
Ça prend en quelques mois. Ça commence par des tapis bactériens, ensuite des algues, des mousses. Et puis petit à petit, donc carrément des plantes. Ces micro-paysages sont le témoignage de choses qui ont voyagé sous les pieds des gens.
À la base, pourtant, et c'est ce qui les différencie des animaux, les plantes sont immobiles, le pied dans la terre.
Elles sont de souche, comme on dit souvent. Mais sans migration, sans mouvement, il n'y a pas de vie.
Et la vie des plantes sur Terre a commencé par une migration.
Les plantes à l'origine étaient aquatiques et sont sorties de l'eau progressivement. Donc ici on a Cooksonia qui est une des premières plantes terrestres vascularisées.
La migration des plantes, c'est une histoire de reproduction. Aller planter sa graine ailleurs. On poursuit la visite avec Mélissa Porte devant le fruit d'un arbre bombardier qui projette ses graines à 250 km/h à une trentaine de mètres. Mais d'autres plantes voyagent encore plus loin grâce aux animaux et même beaucoup plus loin grâce à l'eau et au vent.
Pour le pollen du pin, ça ça peut être plusieurs centaines de kilomètres. Et d'ailleurs, sur le grain de pollen du pin maritime, on peut observer deux ballonnets ici qui sont remplis d'air, qui permettent de s'envoler plus facilement encore.
D'autres ont des migrations plus modestes, mais quotidiennes. C'est le cas du phytoplancton dans la mer pour rechercher la lumière.
On a des algues unicellulaires qui descendent dans la colonne d'eau quand il fait nuit, qui remontent quand il fait jour parce que ça permet la photosynthèse.
Mais face aux migrations, il y a des comportements xénophobes.
La conquête d'un milieu, c'est prendre la place et il ne faut pas que les autres viennent à côté. Donc c'est le cas de la piloselle. Par ses racines, elle va dégager des toxines qui empêchent les autres plantes d'approcher.
Et oui, parfois les plantes ressemblent à des humains.
Voyage, voyage.
Les plantes voyagent aussi à cause du réchauffement climatique.
Oui, on le constate partout sur la planète, mais une étude réalisée sur plus de 250 espèces de plantes forestières en Europe sur 40 ans vient de produire un résultat contre-intuitif. Seulement 15% de ces végétaux migrent vers le nord pour trouver des températures plus adaptées, alors que plus d'un tiers progresse vers l'ouest de 3,5 km par an, la cause non pas le réchauffement climatique, mais la pollution à l'azote dans l'air, l'industrie, les voitures et dans le sol, les engrais. L'azote est un nutriment essentiel aux plantes. L'azote, il donne la bougeotte.
Voyage, voyage.
C'est dans ta nature à retrouver sur RFI.fr.
Vivre ailleurs.
Et aujourd'hui, on s'intéresse à Noël dans le monde entier. Dans quelques jours, la fête de la nativité sera célébrée dans plein de pays. Et en Norvège, c'est une période de fête, mais aussi de grand nettoyage des maisons. Une fête propice aux cris des enfants qui jouent dans la neige. Elle correspond aussi aux jours les plus courts de l'année, mais pas seulement. Les précisions de Cécile Moroni, conférencière, autrice, humoriste expatriée à Oslo depuis 14 ans, interrogée par Corinne Manjou.
Noël en Norvège, c'est toute une saison où il y a différentes fêtes tout au long du mois de décembre. Il y a par exemple la fête de la Sainte-Lucie le 13 décembre, qui est une très grosse célébration ici, qui est la fête des Lumières, qui vient de Suède d'ailleurs. C'est une habitude qui est païenne et qui est très ancienne, et puis ensuite qui est devenue la fête de la Sainte-Lucie au moment où la Norvège était une partie de la Suède. Et d'ailleurs, le mot « Yule » qui veut dire « Noël » en Norvège, c'est un mot viking. « Yule », ça s'écrit « J-U-L », ça se prononce « Yule ». Et c'est une des rares langues européennes où on n'a pas utilisé un mot chrétien. On a gardé le nom, en fait, antérieur au christianisme. Donc, qui montre qu'on faisait déjà ce genre de fête au moment où les nuits étaient les plus courtes, avant que la Norvège soit christianisée, il y a environ 1000 ans.
Et Yule, ça veut dire Noël.
Exactement. Sauf que Noël, Weihnachten, Christmas, Navidad, tout ça, c'est des mots qui sont vraiment, viennent de l'idée de la naissance de Jésus. Yule est un mot antérieur à ça. On dit Yule aussi en suédois et en danois, comme le jour le plus court de l'année. Il y a aussi plusieurs habitudes, rituels et traditions, le 23, le 24, le 25, le 26 décembre, alors qu'en France, on a tendance à fêter le Noël le jour du 25 décembre et le 24 au soir aussi. Ouais.
Alors, quelles sont les spécificités de Noël en Norvège et plus globalement dans les pays scandinaves?
Comme l'hiver est vraiment long et qu'il est très sombre, on a tendance à mettre l'accent sur toute la partie agréable, chaleureuse et qui rassemble pendant cette saison-là parce qu'on en a vraiment besoin. Je pense que ça marque aussi finalement l'importance que Noël prend pour les gens ici. Déjà, il y a beaucoup de types de pâtisseries et de gâteaux à base de cannelle et de cardamome qui sont, à mon sens, les clichés positifs de la nourriture scandinave pour Noël. Selon les régions, on mange bien du porc le soir de Noël ou bien du poisson en Norvège ou bien de l'agneau aussi.
Le repas de Noël, c'est donc le porc, le poisson ou l'agneau selon les régions.
Exactement, de génération en génération. Ça vient du fait que la Norvège, peut-être plus que la Suède même, était quand même un pays plutôt pauvre pendant très longtemps et que donc on tuait l'animal gras à Noël.
Et quelles sont les autres spécificités?
Il y a aussi une tradition de mettre une amande dans une sorte de porridge de Noël. Ça, c'est le 23 au soir. Et celui qui a l'amande dans son assiette gagne, un peu comme nous avec la fève et la galette des rois. Et en général, on gagne une sucrerie, genre un petit cochon au chocolat ou en pâte d'amande, par exemple.
Et ça se fait uniquement le soir du 24
ou... Le soir du 23. Vraiment, Noël dure plusieurs jours, donc il y a différents rituels chaque soir. Mais le soir le plus important, c'est le 24 au soir. Les familles se retrouvent volontiers à partir du 21, du 22. Et ensuite, on reste comme ça plusieurs jours dedans. Ou alors, on fait un peu de ski quand il y a beaucoup de neige. Mais disons qu'il y a quand même une période plus longue où les familles sont entre elles à la maison.
Les familles se retrouvent dans un domicile, tout le monde se regroupe.
Ouais. Exactement. Et les Norvégiens ont aussi des huttes, alors des chalets, qui sont leur résidence secondaire, qu'ils utilisent beaucoup aussi pendant les fêtes de fin d'année. Parfois, ils quittent la ville pour se mettre vraiment dans la neige. Et ils restent comme ça plusieurs jours avec des rituels tous les jours différents.
Ils font des cadeaux aussi, je présume.
Oui, dans la mesure et la démesure, tout comme je pense dans tout le reste des pays occidentaux. Donc il y a des familles qui aussi font 24 petits cadeaux pour les enfants tout au long du mois de décembre. Ils vont demander à un voisin ou à un oncle de se déguiser en Père Noël. Et le Père Noël vient vraiment dans la maison déguisé en Père Noël. Il y a quelques années, mon mari est allé faire le Père Noël chez les voisins et le voisin était venu faire le Père Noël chez nous. Le 24 après-midi, le Père Noël passe vraiment dans la maison.
Et il passe l'après-midi, pas la nuit?
La nuit, elle commence à 14h et à Oslo. Et le jour se lève jamais dans le nord du pays, donc c'est un concept un peu diffus la nuit ici. Mais disons que c'est en fin d'après-midi quand les enfants sont encore réveillés, ouais. Donc ils le voient, ils voient le Père Noël. Et on ouvre les cadeaux le 24 au soir, ici. On dîne très tôt, vers 16h, toute l'année en Norvège. Mais les dîners de Noël sont vraiment très tôt, du coup. Et ensuite, on chante autour du sapin, en se tenant la main et en faisant une petite ronde autour du sapin. C'est une tradition chouette, ouais.
C'était Vivre ailleurs avec Corinne Manjou. Cette demi-heure d'actualité internationale touche à sa fin. Dans un instant, c'est votre édition Afrique. Mais avant, on va écouter un peu de musique avec Lucy Bella, chanteuse capverdienne, et son titre Lembra Tempo.
Ladeira de nós terra, bem prender a moda antiga, bem pra não ver lembrar tempo. Bem dança, escola de nós terra, bem prender a moda antiga, bem pra não ver lembrar tempo. Um vestinha boy, do jean tava pai, pra te estressar de ser vida, pra conhecer alguém. Um vestinha boy, do jean tá parceiro. Tranquilo, seis vida, dança de mancher. Um vestinha boy, tu tentava pai, pra te estressar, seis vida, pra concher alguém. Um vestinha boy, tu tenta parecer. Tranquilo, seis vida, dança de mancher. Dança, juntinho a respeito, agora é coisa de um ver. Mam tem saudade, que ele com a já era pôr, mas ainda não tá lembrar, mas grande tá contar. Dança juntinho a respeito, agora é coisa de um vez. Mam tem saudade, que ele com a já era pôr, mas ainda não tá lembrar, mas grande tá contar. Coladeira de nós terra, bem prender a moda antiga, bem pra não bem lembrar tempo. Bem dança, escoladeira de nós terra, bem prender a moda antiga, bem pra não bem lembrar tempo. Vestinha boy, do jean tava pai, pra te estressar de seis vida, pra conhecer alguém. Um vestinha boy, do jean tava.
La chanteuse capverdienne Lucy Bella et son titre Lembra Tempo à retrouver dans notre playlist RFI.
Dança juntinho a respeito, agora é coisa de um beijo, mantém saudade.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
C'est un beau bébé de 430 kilos, divinité, constitution, âme et esprit sacré du peuple ébrié. Son nom, c'est Didi Ayokwe, plus connu sous le nom de Tambour Parleur. Volé par l'administration coloniale en 1916, il s'apprête à faire un retour en Côte d'Ivoire après un exil centenaire.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU, sur RFI.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier. Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la Radio du Monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.